Bonjour.
Au départ de ce nouveau livre, il y a un événement passé presque inaperçu, le départ des tout derniers gardiens de phare. Alors, comment est-ce que la disparition de ce métier-là vous a amené à écrire ce livre?
Tout d'abord, ce qui est intéressant avec le jeu, c'est de pouvoir mettre ensemble des choses qui habituellement ne vont pas ensemble. C'est ce que fait l'enfant quand il joue. Il met des choses ensemble qui n'ont pas de rapport à la base. Donc, les gardiens de phare, la disparition des gardiens de phare, pour moi, était un peu le symbole de notre société. C'est-à-dire que le danger ou le défi de rester vivant dans notre société technologique. Parce que, dans le fond, à partir du moment où tous les gardiens de phare sont disparus, tous les phares de la planète sont automatisés, sont automatiques. Et donc, j'y vois là le défi de la société, c'est-à-dire de ne pas tomber dans l'automatisation et de garder une présence humaine à l'intérieur de nous-mêmes, on pourrait dire.
Et d'ailleurs, peut-être le jeu, puisque le fil rouge de ce livre, c'est donc le jeu. Et pour vous, le premier jeu qui doit vous intéresser, c'est le jeu avec les mots.
Ah oui, tout à fait. Comme justement, on va avoir un week-end plus vieux. Pourquoi qu'on ne pourra pas rester plus jeune à jouer? Tout à fait. Jouer avec les mots, c'est ce qui fait de nous des êtres vivants, des êtres créateurs. Justement, qui fait qu'on n'est pas dans une société automatisée. Parce que quand on voit notre société qui nous parle de la technologie de plus en plus importante, c'est aussi le langage. Parce que le langage devient de plus en plus utile, utilitaire et tout ça. Donc, garder la poésie du langage, garder la capacité de créer du sens, parce que le langage, c'est notre outil qui nous permet de créer du sens dans la vie.
Alors, selon vous, pour vivre en accord avec soi-même, il est primordial de retrouver le sens du jeu. C'est notre septième sens, en fait.
Oui, c'est le septième sens. Puis en fait, c'est le sens qu'on vient, quand on est enfant, on vient avec ce sens-là, pleinement éveillé. Et progressivement, ce qui arrive dans notre développement, c'est qu'on se met à avoir peur. Parce que ce qu'on peut dire très, très concrètement, qu'est-ce qui fait qu'on arrête de jouer dans la vie? C'est qu'on se met à avoir peur. Dans la vie, soit on joue, soit on est joué. Alors, progressivement, la peur va jouer avec nous et on va devenir de moins en moins explorateur, de moins en moins curieux. Et la peur va l'emporter sur la curiosité. La peur d'avoir l'air fou, la peur de perdre, la peur du ridicule, peu importe tout ça, c'est ce qui fait qu'on arrête de jouer.
Et puis, la peur peut provoquer justement de l'anxiété. La peur d'avoir peur, finalement, on anticipe ces peurs.
Eh bien voilà, et c'est là, je pense, un défi aujourd'hui de notre rapport à nous-mêmes. Vous savez, le taux de divorce le plus élevé, c'est avec nous-mêmes aujourd'hui. Et particulièrement avec cette vie à l'intérieur de nous, avoir peur, c'est une émotion qui est naturelle. Mais si on se met à avoir peur de notre peur, c'est ça l'anxiété. Le problème de l'anxiété, c'est que je me mets à avoir peur de ce qui se passe à l'intérieur de moi et j'évite continuellement d'être en contact avec ma peur. Et là, ça devient l'anxiété au sens où je fais de l'évitement. Et quand je fais de l'évitement, je suis en train de me priver d'occasion de jouer avec la réalité. Quand je dis soit on joue, soit on est joué, quand je suis dans l'anxiété, je fais de l'évitement. Je suis continuellement en train d'éviter ce qui est là et continuellement en train d'éviter ce qui vit à l'intérieur de moi.
Donc ça veut dire qu'il faut affronter les obstacles et puis parfois trouver des moyens, des troisièmes voies pour les contourner, pour les franchir?
Tout à fait. Donc chercher le troisième côté des choses. Alors, devant un obstacle, il y a toujours un troisième côté. On va essayer d'imaginer le troisième côté des choses. Et si on veut traduire concrètement, dans le fond, dans notre vie, de voir les obstacles comme des occasions d'apprendre, des occasions de jouer, plutôt que comme des éléments qui nous empêchent de jouer, c'est vraiment la personne qui a le sens du jeu, elle va jouer avec les obstacles plutôt que éviter les obstacles. Et tout à fait. Donc, partir à la recherche du troisième côté, ce que je n'avais pas prévu à la base.
Jouer, finalement, c'est retrouver l'innocence, la vie sans préjugés qu'on connaît enfant.
Oui, tout à fait. Et donc, moi, dans mon livre, Tout ce jeu avant 100 ans, je parle des trois dimensions du sens du jeu. La première dimension du sens du jeu, c'est le jeu que nous donnons, parce que le jeu, c'est aussi de l'espace qu'on donne. Hein. Quand quelque chose est trop serré, on donne du jeu. Donc, se donner du jeu pour être nous-mêmes, mais aussi donner du jeu à l'autre. Ne pas trop le juger rapidement. Donc, lui donner de l'espace pour qu'il puisse être lui-même, qu'il puisse bouger, danser entre nos préjugés. Et la troisième dimension du jeu, c'est ce qui peut émerger dans l'espace entre nous, la richesse créative qu'il y a dans les rencontres. Parce que peut-être pour situer les auditeurs, moi, je suis aussi celui qui écrit Les hasards nécessaires, qui était un livre sur le sens des rencontres ou ce qu'on appelle la synchronicité dans les rencontres, c'est-à-dire la créativité qu'il peut y avoir dans certaines rencontres de nos vies qu'on n'a pas prévues.